Voilà, c'est un privilège et une joie, et c'est déjà une bénédiction. Moi, je pourrais partir maintenant, j'ai déjà assez reçu pour la semaine, rien que d'être avec vous et de vous entendre et puis de voir comment les choses continuent. Je suis en train de, en même temps, je suis en train de regarder toutes vos têtes là, parce que chacune me raconte une histoire de l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous à Fréjus, on n'est pas loin de vous, hein. Dernièrement, il y a eu le frère Tony Avril qui est passé. Et puis il a porté la parole, donc on a dit, ben, on va monter prier avant. Il a dit, oh, comme Saint-Denis. J'ai dit, oui, comme Saint-Denis. Et puis, bon, vous n'allez pas aller au parc, mais nous, cette année, ce sera la deuxième année où on va au parc. Pour le dimanche de Pâques, on va dans le parc de l'Esterel. On est plus sûr d'avoir du soleil que vous. Je dis ça en passant. La première année que j'en ai parlé, ils m'ont regardé. J'ai dit, si, à Saint-Denis, ils le font. Ah bon, alors si Saint-Denis le fait, c'est bon. Et alors, voilà. Je remercie le Seigneur aussi pour votre aide et vos prières et votre participation dans l'œuvre de Fréjus aussi. Ils se sentent vraiment attachés à vous. Et moi aussi. Donc, que le Seigneur vous bénisse et merci pour vos prières, merci pour votre aide financière et tout. Et le Seigneur est en train de faire une œuvre. Et il nous donne la force. Je ne sais pas si tout à l'heure, quand vous avez chanté et lu dans 1 Timothée 4, là où il dit, il a parlé de la jeunesse, je ne sais pas s'il pensait à moi, mais voilà. Hein. Merci, frère, pour cette méditation sur le Christ, notre avocat. Ça m'a fait penser à Apocalypse 12, où on voit. Et puis tout à l'heure, Stéphane, il me dit, dis-moi un passage où il y a de l'humour dans la Bible. Eh bien, moi, là, ce passage-là, quand je vois Satan, il se fait éjecter du ciel. Et puis il nous dit qu'il est dans une grande colère. Je pense à des dessins animés là où vous avez des vapeurs qui sortent des oreilles et qui dorment de partout. Et il était dans une grande colère. Mais pourquoi dans une grande colère? Parce qu'il n'y a pas une seule accusation qui a été retenue contre les chrétiens. Il était frustré d'une manière terrible. Pourtant, Satan, il n'est pas si bête. Et il était sûr qu'il avait des bonnes choses, des bonnes accusations. Et rien n'a été retenu. Et puis il a été éjecté, comme disent les jeunes. Et on peut s'imaginer, et puis il nous dit qu'il est tombé comme ça, dans le vide, sur la terre, et était dans une grande colère. Gloire à notre Dieu. C'est vrai, cette semaine, c'est une semaine où on commémore la mort de Christ. On le fait tous les dimanches, c'est sûr. Et on continue encore cette semaine. Et vraiment, plus ça va, plus je suis reconnaissant. Pour la puissance de la croix qui transforme des âmes. Je continue à trouver des cas impossibles que le Seigneur transforme. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Tout en étant conscient que cette semaine, c'était la semaine où l'on pense à la passion de Christ, eh bien, je crois que ici nous avons un passage aussi qui est tout à fait à propos. Donc Jean chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 13. Donc pour vous situer ici, c'est la première Pâque après que Jésus a commencé son ministère, donc après son baptême à l'âge de 30 ans. Et donc il vient tout juste de commencer son ministère. Au début du chapitre 2, nous avons son premier miracle, là où il a transformé de l'eau en bon vin, elle nous dit. Dans le sud, on sait ce que c'est que le bon vin. C'est de chez nous, c'est le rosé. Hein, pour ceux qui connaissent, moi, je ne sais pas. On m'a dit que c'était bon. Voilà. Mais Jean chapitre 2, verset 13 nous dit: la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Père, nous sommes là, ta parole est ouverte, celle que tu as préservée jusqu'à notre jour. Te remercions aussi pour ce doux ministère de l'Esprit-Saint qui nous éclaire lorsque nous lisons ta parole. Et nous en avons tant besoin, Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos connaissances ni sur notre expérience, mais sur ta direction. Et que tu prennes ces passages et que tu l'appliques à chacun selon son besoin cette semaine. Et Seigneur, que nous puissions partir tous d'ici avec des cœurs reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. À toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Vous savez, ce que nous voyons ici, Jésus, parfois les gens sont choqués de voir que Jésus ait pris un fouet et puis on dit, mais bon, pour un pacifique, c'est un peu violent. Mais il se comportait comme un fils qui savait que son père était très dérangé, très irrité de la manière dont on traitait sa maison. Et il ne faisait qu'exprimer, par ce geste, qu'exprimer ce que le père ressentait dans le ciel. Et c'est important pour nous de le comprendre. Et Jésus chasse. Il y avait un business, hein, comme on dit, dans ce temple, et Jésus savait que ça ne correspondait pas. Il dit, vous en avez fait une maison de voleurs. Et il les a chassés. Mais vous savez, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il n'y a personne pour lui dire, non, mais ça ne va pas. Tout le monde savait que ce n'était pas bien. Il n'y a même pas les Juifs ni les pharisiens qui sont venus pour lui dire « Non mais, on fait ça pour Dieu ». C'était tellement clair que c'était un business qu'ils n'ont pas pu dire. Ils n'ont pas dit quoi que ce soit. Jésus était dans ses droits et son comportement correspondait tout à fait à la faute. Et il agit d'un zèle jaloux pour Dieu. Et parfois il est nécessaire de le faire. Pour la cause de Christ. Mais ce qui va nous intéresser surtout ce matin, et nous allons nous arrêter là-dessus, c'est cette réponse de Jésus. Quand on lui a dit, mais par quel miracle est-ce que tu montres-tu que tu puisses agir de la sorte? C'est-à-dire, donne-nous un signe d'où vient ton autorité pour faire ça. C'est pas que c'était pas bien ce que tu as fait, mais pourquoi toi? C'est un peu, vous savez comment les petits frères... Quand le grand frère lui dit « Écoute, arrête de faire ça », il dit « Mais tu es pas mon père ». C'est-à-dire, on dit « C'est par quelle autorité hein ?» C'est un peu dans cette situation-là qu'on a. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus ne se justifie jamais. Il répond, mais il se justifie jamais, parce qu'il n'y a rien à justifier. Il répond « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Et eux, ils écoutaient, ils sont sur-regardés. De quoi il parle? Si on interprétait ça littéralement, ben, il dit, mais ça a pris 46 ans pour Hérode de construire ce temple, et lui, il va le faire en 3 jours. Et puis c'est un charpentier, il ne sait pas travailler la pierre. Comment il va faire ça? C'est-à-dire, il les a laissés perplexes. Et Mais vous savez, ce que je vois dans ce passage, c'est que je vois ce qui était dans le cœur de Jésus, à quoi il pensait déjà. Parce que comme les disciples l'ont compris comment, seulement 3 ans plus tard, c'est que Jésus déjà parlait de sa mort et sa résurrection. Il dit, vous détruisez ce temple, et moi, je le relève. Vous allez me mettre à mort, mais moi, je vais ressusciter. Déjà, il vient de commencer son ministère, il vient de faire seulement le premier miracle. Il vient de commencer. La croix est dans 3 ans. Mais la chose qui est dans sa pensée, c'est de mourir pour nous. Il n'était pas prêt à le révéler, et donc il l'a dit de manière, c'était une parole prophétique, qu'il sera comprise qu'une fois que ce sera réalisé. Mais c'est une parole réelle, c'est une promesse. Il dit « détruisez ». Je ne sais pas s'il a fait le geste, mais dans son cœur, il disait « détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Et pourtant, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris, mais c'est quand même resté dans leur tête. Parce que on trouve, lorsque Jésus est arrêté et il est devant le Sanhédrin et on cherche des gens pour trouver des accusations contre lui, vous savez l'accusation qui ressort ? C'est, ils font référence à cette parole-là. Ils disent, nous avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui sera fait de main d'homme. Il ne sera pas fait de main d'homme. C'est ça que un accusateur vient et dit, il a dit qu'il allait détruire le temple. Pendant 3 ans, cette phrase leur est restée, leur tournait dans la tête. De quoi il parle ? De quoi il parle ? Et puis ils ont essayé de se servir de ça pour le prendre littéralement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait des mauvaises intentions, il voulait détruire le temple, c'est un terroriste et il faut l'éliminer. C'est une parole puissante parce que c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu pénètre un cœur, ça marque, même si on ne comprend pas, ça marque. Les hommes ressentent la puissance de la parole. Ça, ce qu'on vient de lire, ça s'est passé en l'an 26. Une année plus tard, en l'an 27, dans Matthieu chapitre 12, verset 38, on lui demande, on lui dit, Jésus, donne-nous un signe. Comprenez que dans l'évangile de Jean, signe, ça veut miracle, c'est toujours le sens de signe. Et donne-nous un signe, donne-nous quelque chose qui va prouver d'où vient ton autorité, qui tu es. Et dans Matthieu 12, 38, il nous dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ils ont dit, donne-nous un signe de qui tu es, quelque chose qui démontre qui tu es. Eh bien, il leur répond par encore une réponse ambiguë, bon, qui est claire maintenant, mais qui n'était pas claire à l'époque. Il dit, je vous donne qu'un seul signe. Comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà. Ils se regardent. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais Jésus savait, c'est le signe le plus fort, c'est la démonstration la plus forte de qui il est, de sa personne. Encore une fois, nous voyons que sa réponse fait référence à la croix, à sa mort, sa résurrection. En l'an 26, la première année de son ministère, il pense à la croix. Déjà, il voit la croix. La deuxième année de son ministère, il voit encore la croix. Elle est toujours là. Jésus était conscient pendant tous les 3 ans qu'il allait mourir. Et il a continué. Il a continué. Un avocat extraordinaire, n'est-ce pas ? même si les clients sont pas reconnaissants, ni n'apprécient, ni le comprennent, ni rien du tout. Mais lui connaît notre problème. Et il a dit, et je vais aller jusqu'au bout avec. Les disciples, comme on le voit à la fin du passage que nous avons lu, les disciples vont comprendre seulement après la mort et la résurrection de Christ. Il nous dit au verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils se sont souvenus. Sa parole, elle était là. Ils n'arrivaient pas à en extraire la pensée. Mais une fois que Jésus est ressuscité, c'est revenu, ils ont dit. Mais il en parlait déjà. Et même par la suite, vers la fin de son ministère, quand il a commencé à dire à ses disciples, vous savez, le Fils de l'homme, il va monter à Jérusalem, il sera mis à mort, mais il ressuscitera le troisième jour. Et ils ont dit, non, mais tu dérailles, tu dis n'importe quoi. Mais Jésus savait de quoi il parlait. C'est-à-dire, en fait, la croix, il n'a pas souffert pendant 3 heures, il a souffert pendant 3 ans. Et pour nous. Regardez avec moi dans Romains chapitre 1 et au verset 4. Romains chapitre 1, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Et je vais commencer au verset 1 pour avoir toute la phrase. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi vous, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données par-dessus, donné de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous avez vu au verset 4, il dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. » Ils ont dit « Mais par quelle autorité ?» Il dit « Tu es moi, je ressusciterai. » Il dit « Donne-nous un signe. » Il dit « Mettez-moi en terre, je sortirai. » La résurrection de Christ, eh bien, c'est une démonstration puissante de qui est Jésus. Je reviens à Jean chapitre 2. Les disciples, par la suite, ils nous disent, ils ont compris ce que cette parole voulait dire. Au verset 21, il dit, mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Quand ils ont compris qu'il parlait du temple de son corps, tout d'un coup, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai, a pris du sens. Vous savez, le temple n'est pas Dieu. Le temple est le lieu où Dieu habite. Et là où Dieu est, ça devient un temple. D'où l'expression... Nous parlons de Dieu incarné, quand on parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu s'est revêtu d'un corps, d'une chair. Nous parlons de la parole de Dieu incarné, dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. Et là, l'auteur nous rappelle un passage de l'Ancien Testament et dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu ne voulais pas toutes ces offrandes et ces sacrifices de l'Ancien Testament, ça ne suffisait pas. Il y a des milliers de brebis qui sont morts, des milliers de veaux, de chèvres, de tourterelles. Et le sang a coulé pendant tout l'Ancien Testament. Mais il a dit, mais c'est pas ça que c'était pas assez. C'est pas le sang des animaux qui peuvent purifier. L'avocat n'aurait pas pu nous défendre avec seulement cela. Mais il dit, toi, tu m'as donné ce qu'il fallait. Tu as formé un corps. Ce corps, il l'a formé dans le sein d'une femme, Marie. Et il a reçu un corps tout à fait humain comme le nôtre, pour accomplir son ministère. Vous savez, il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais avant la création du monde, donc avant Genèse chapitre 1, verset 1, quelque part dans l'éternité passée, le conseil divin s'est rassemblé. La Trinité, les trois personnes de la Trinité se sont rassemblées un jour. Ils ont dit, on a un projet. On veut faire quelque chose d'extraordinaire qui provoquera l'admiration et la louange pendant l'éternité. Il dit, on a l'intention de créer un homme. Cet homme qu'on mettra sur terre va pécher. Mais on va préparer un plan avant de le créer, un moyen de le racheter. Et par ce rachat impossible, on va faire quelque chose d'extraordinaire qui va étonner même les anges du ciel et provoquer dans le ciel la composition d'un chant, un cantique nouveau qui n'aura jamais été chanté avant. Ce sera le chant qui est racheté. Le conseil divin s'est rapproché comme ça, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là. Il dit, il faut qu'on monte le plan et on va le faire nous-mêmes. Et ils ont discuté ce plan. Et puis Jésus dit, moi je me porte volontaire pour descendre sur terre, me revêtir d'un corps, afin de mourir pour les hommes. Le Saint-Esprit dit, moi, une fois que tu les as rachetés, moi je m'occupe pour les aider à vivre pour toi. Le Père dit, écoute, moi je m'occupe, je vais mettre tout ça en place, on va coordonner tout cela pour garantir que ça se passe et que ça se réalise. La grâce de Dieu a commencé avant que l'homme soit créé. Et donc, arrivé le moment, Jésus-Christ dit, bon, c'est à moi. Le Fils, il dit, c'est mon tour. Il vient, il naît, il revêt un corps. Vous imaginez, pour lui, ce corps humain, même en bonne santé, ce corps humain, pour lui, c'est une camisole de force. Il était très limité dans ses actions. Il était obligé de marcher pour se déplacer. Il était obligé de prendre le temps de manger, le temps de dormir. Il était épuisé. Il a souffert, il a goûté à tout ce que nous... Pour lui, c'était une souffrance. Nous, quand on est en bonne santé, on est content. Lui, mais en santé, c'était, même en bonne santé, c'était une souffrance pour lui. Depuis la crèche jusqu'à la sortie de la tombe, c'était une souffrance. Mais c'est pour réaliser ce beau plan de Dieu. Pour nous. Pour pouvoir être notre avocat et de remporter la cause et puis voir le diable se faire jeter dans le vide et puis atterrir comme tu peux. Tout ça Et c'est le passage qui nous a été lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. Afin que nous ayons une victime expiatoire qui lui permettrait d'être celui qui se tient près de nous, l'avocat qui parle pour nous. Vous savez, Jésus-Christ dans ce corps, c'était comme, vous connaissez les glands, les chaînes, et puis après il y a les glands. Pour vous les cabites, avant l'autre. Hein, c'est les glands, un gland. Vous savez ce que le gland contient? C'est petit, hein? Il contient un chêne. Mais le seul moyen de sortir ce chêne du gland, il faut l'enterrer. Et ensuite, le chêne est libéré. Jésus-Christ, c'était tout l'amour, toute la grâce, toute la pensée de Dieu, les attributs de Dieu étaient là, enfermés dans un corps. Et il était nécessaire qu'un jour, il a dit aux hommes, vous allez me mettre dans la terre. Et en me mettant dans la terre, vous allez vous réjouir, quoi que c'est terminé, mais en fait, vous allez me libérer. Parce que quand je vais sortir de là, plein de gloire, il va retrouver la gloire qu'il avait avant, auprès du Père, il nous dit dans sa prière de Jean 17. Il dit que celui qui s'est fait homme a été souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça, c'est le plan du Dieu de la Bible. C'est pour nous. Nous, on ne ferait pas ça pour l'un ou l'autre. Et lui, il l'a fait pour nous. Il nous dit dans Romains chapitre 4, verset 25. Qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. C'est ce qu'on a chanté ce matin dans le premier chant, il dit « Dans sa justice, je me trouve habillé. » Dans sa justice, c'est pas la mienne. La mienne, il y a trop de trous, des taches et des déchirures. Oh, mais celle de Christ, il me la donne, me revêt. Et avec cet habit de la justice que j'ai reçu, eh bien, je peux me présenter devant le Père. Et le diable, il est là, il veut raconter tout ce qu'il peut raconter. Il dit, mais je le connais, moi. Ouais. Dis-toi, tout ça, ça a été pardonné, ça a été payé. Trouve quelque chose qui n'a pas été couvert par le sang de Christ. Il n'y a rien. Vous savez, Jésus, il nous parle du temple de son corps. Là où est Jésus, ça devient un temple. Vous savez, là, et ne dites pas, moi, je suis rien de spécial, je suis très ordinaire, je ne sais pas parler, en fait, on ne m'entend pas à l'église. Et alors, ça n'empêche pas d'être un temple. Vous savez, la crèche dans laquelle Jésus est né, peut-être c'était une grotte, elle est devenue un temple parce que Jésus était là. Et à partir du moment que Jésus-Christ, la divinité de Dieu est en vous, en la personne du Saint-Esprit, vous aussi vous devenez un temple. Jésus a dit, ce sont les hommes qui vont détruire le temple de mon corps, mais c'est Dieu qui va le ressusciter. Et quand il dit Dieu qui va ressusciter, c'est la Trinité qui va le ressusciter. Parce que, il nous dit en Romains 4, 24, il dit le Père l'a ressuscité. Il nous dit dans Romains 8, 11, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ. Et dans ce passage qu'on vient de lire, eh bien, il dit, et moi-même je le relèverai. Il dit, dans Jean 10, il dit, personne ne prend ma vie, je la donne et je la reprends à volonté. C'est cette mort et cette résurrection de Christ, c'est l'événement le plus important de l'existence des humains. Et c'est une chose dont on se souviendra pendant l'éternité. Parce qu'on aura un chant qui fera référence tout le temps. Alors c'est très bien de chanter de la croix de Christ, de la résurrection de Christ, parce qu'on va le faire pour l'éternité. Nous avons reçu la vie éternelle. Eh bien, on la vit dès maintenant. Maintenant que j'ai placé, si je parle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur et qui ont reçu la vie nouvelle, eh bien, au moment où vous acceptez l'œuvre de Christ, vous dites, je comprends, je crois que Christ est mort pour moi. Père, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Et le Père dit, avec plaisir, c'est un plan qui est là depuis longtemps. Et je t'attendais. Et c'est déjà fait. Tu es mon fils. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre en toi mon esprit. Le Saint-Esprit, il habitera en vous. Et votre corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Le corps de Christ, qui était comme le nôtre, était un temple. Jésus a dit lui-même, ce temple. Donc, il n'y a aucun problème que votre corps ne puisse pas devenir un temple. Vous avez exactement le même corps que Jésus. Et il peut réellement devenir un temple. Et le Saint-Esprit, il a dit, mais ça c'est ma part. Dans le grand conseil, c'était ma part. Moi, je viendrai après pour exécuter l'œuvre de la croix dans la vie de ces personnes, les transformer. Et j'espère que nous sommes tous en voie de transformation. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, quand je suis mort pour l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Il dit, j'ai acheté, j'ai racheté, maintenant c'est à moi. J'en fais un temple parce que je suis présent. Il dit, alors maintenant. Et c'est là où je reviens à ce que Jésus a fait dans le temple. Parce que lui, il est rentré dans un temple et puis il a trouvé des choses qui ne correspondaient pas à la maison de Dieu, qui ne correspondaient pas au temple. Il y avait des activités là, il y avait des intérêts, il y avait des projets qui ne correspondaient pas, qui ne convenaient pas à un temple. Et Jésus, sachant quelle était la pensée du Père, eh bien, il l'a exprimée. Et l'a chassé avec un fouet. Je pose la question. Et tu es au Seigneur. Ton corps est un temple du Saint-Esprit. Mais dans ce temple-là, est-ce qu'il y a du business? Ou est-ce que c'est vraiment un temple consacré à Dieu? Si c'est un endroit où il y a toutes sortes de choses qui se passent et qui ne correspondent pas du tout, si Jésus ne l'a pas fait, mais sachez que même s'il ne l'a pas fait, il le pense, ça ne va pas. Et vous savez, je sais, je me rappelle, il y a quelques années quand j'ai reçu le Seigneur, ouais, j'ai fait le vide, j'ai laissé ça, j'ai fait ça. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, parce que Jésus-Christ aussi, il a chassé, en l'an 26, il a chassé, mais en l'an 28, il est revenu, et le temple était plein hein, de business. Il a chassé encore. Hein. Et alors? Eh ben, c'est un temple, et chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh ben, il faut faire le ménage. C'est tout. Et si pouvais vous faire une petite confession, moi, c'est pas arrivé seulement deux fois, c'est plusieurs fois que le Seigneur a dû faire le ménage dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et versets 19 et 20, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifier Dieu avec le corps, ça ne veut pas dire danser dans les, sur l'estrade de l'église. Hein. Quand Jésus a voulu faire le ménage dans le temple, il a chassé ce qui ne convenait pas. Il n'a pas dit « augmenter la musique ». Il a dit « ben écoute, non, non ». Il a chassé, il a fait le ménage. Le Dieu est un Dieu qui dit « faites silence et sachez que je suis Dieu ». Vous savez, en Angleterre, quand la reine rentre dans le Parlement, elle rentre, eh bien tout le monde se lève. Mais quand Jésus rentre dans son temple, tout le monde se prosterne. Mon frère, ma sœur, dans quel état se trouve le temple de ton corps? Que pense Dieu, même s'il ne fait rien? Il n'a pas envoyé la foudre, mais quand Jésus, connaissant... Il était animé d'un zèle jaloux pour son père. Il savait ce que son père ressentait, ce que ça lui faisait. Puis il suffit de lire certains passages de l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-ce que ça lui fait bouillir, la manière dont on traite parfois son temple. Ce temple qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, non, mais Seigneur, c'est un peu fort. Oh, ben, vous savez, hein, les chrétiens aussi, ça vole. Des fois, on lui vole un peu de temps. Du temps qu'on devrait consacrer au Seigneur chaque jour pour prier. On dit, non, j'en ai besoin pour faire... Et on ne le rend pas. Encore si le matin, vous dites, Seigneur... Il dit, bon, ben, rattrape-toi. Dites... Ah, j'ai travaillé dimanche et j'ai pas pu aller à l'église. Tant pis. Non, non, non. Le septième jour, c'est à lui. Tu as un jour de repos, tu as un autre jour de repos, non? Eh bien, ce jour-là, tu vas au parc, tu prends ta Bible et tu passes quelques heures. Ne lui prends pas son temps. Il y a des choses que je dois lui donner de mon bien. De mes services, un service que je peux rendre à Dieu, mais bon, je suis tellement occupé à gagner de l'argent, à faire ceci, du sport, à faire ceci. Et ne prends pas sur son temps à lui, prends sur ton temps à toi. Il t'a donné 6 jours, laisse-lui son jour. Il dit, vous avez pris ce temple qui est un lieu de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et je crains que même dans nos églises évangéliques, il y a pas mal de cavernes de voleurs qui portent le nom Église évangélique de Jésus-Christ. On a besoin de faire du ménage. Bon, mais je ne parle pas des autres, je parle de nous ici. Je parle de mon cœur. Mon corps est un temple. Ce lieu est devenu un temple ce matin, pourquoi ? Parce que le Seigneur est là et nous sommes là. Pendant la semaine, ce n'est pas un temple, c'est un bâtiment. Mais dès que les enfants de Dieu se rassemblent et Jésus est là parmi eux, ça devient un temple. Est-ce que je lui accorde l'adoration que je lui dois ? Est-ce que je lui accorde les actions de grâce, les remerciements que je lui dois. Est-ce que je l'ai toujours remercié pour tout ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'il y en a que j'ai prié et puis j'ai rien dit, puis je continue? Vous savez comment ça vous vexe quand vous faites quelque chose pour quelqu'un et puis ils disent pas merci, ou même pas dit merci. Eh, si vous ne l'avez pas fait avec Dieu, vous n'avez pas le droit de vous plaindre de lui. Parce que vous serez jugé par le jugement dont vous jugez les autres. Jésus vient et dit, détruisez ce corps, je le rebâtirai en 3 jours. Jésus-Christ, pendant tout son ministère, pensait à ce sacrifice qu'il allait faire pour nous. En fait, si, maintenant, avec tout ce qu'on a dit ce matin, je peux dire que depuis avant la création du monde, il est en train de penser à ce jour où il va mourir sur la croix pour nous. C'est un projet qui est là. Et tout le long de l'Ancien Testament, on a des références à cette croix. Tout un système de sacrifice pour nous préparer à comprendre le concept de la croix. Tout des 10 commandements pour nous rendre conscients du fait que nous sommes pécheurs, pour que nous puissions apprécier le ministère de la croix. Et puis Jésus va jusqu'à la croix sans dire un mot comme un agneau. Il supporte la croix. Et tellement il est rempli d'amour que même ce brigand qui se moquait de lui un peu avant, il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il dit j'ai déjà parlé pour toi. C'est bon. Vous savez, et c'est l'attitude de Jésus. Et il n'a pas changé. Il est toujours là. Et si vous n'avez pas encore mis les choses en règle dans votre vie, si vous n'avez pas demandé et dit Jésus, écoute, ça fait longtemps que je viens à l'église. Je pense souvent aux enfants qui grandissent dans l'église. C'est notre premier champ d'évangélisation. Parce que c'est des inconvertis, hein, quand on les amène. Et c'est à eux qu'on doit penser. Et peut-être vous avez grandi dans l'église, vous connaissez tous les chants. Vous les connaissez aussi bien que le pasteur. Vous connaissez les versets bibliques. D'une classe à l'autre, on vous a fait mémoriser. Vous avez toutes les bonnes réponses. Vous saurez dire à quelqu'un comment venir à Christ. Mais est-ce que vous l'avez fait? Je crois. Est-ce que tu es sûr? Écoute, c'est pas la peine de rester dans le doute. Si quelqu'un a du doute, il dit, parle, lis, prends ta Bible et commence à lire. Dire, Seigneur, tu sais, normalement, je crois que je suis sauvé, mais je ne suis pas sûr. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner l'assurance, ce salut ici? Et si je ne suis pas sauvé, et que tu écoute, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. J'ai toujours entendu, mais je le crois, c'est pas seulement dans ma tête, mais dans mon cœur, je le crois. Et je veux que tu me donnes la vie éternelle. Et tu es mon sauveur, et puis après je veux faire de toi, grâce à l'assistance de l'Esprit de Dieu, faire de toi mon Seigneur, pour te suivre et t'adorer. Et je voudrais un jour être dans la gloire, et pour chanter avec les anges le cantique des rachetés. Je veux faire partie de ce groupe. Parce que les anges, ils vont nous regarder et dire, oh là, Dieu, il s'est dépassé là. Des caractères comme ça, il les a rendus sans faute, sans défaut, sans tâche. Aussi, cette église, aussi belle qu'une mariée. Et les anges vont dire, chapeau, Dieu, tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour employer le langage humain. Je crois qu'on dira mieux là-haut. Et vous savez, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce dont on se réjouit. Et Jésus-Christ a démontré qu'il était Dieu. C'est une vérité que le monde attaque tout le temps. Pourquoi ? Quand je vois que le diable, il commence à détruire quelque chose, je me dis, il doit y avoir quelque chose de bien là. Et quand il commence à attaquer la divinité de Christ, je me dis, ah, ça doit être important là. Le diable, il m'aide. C'est comme Jésus a dit, il dit, là, ça semble les vautours, c'est là où il y a le cadavre. Ben là que tu vois le diable qui commence à tourner, tu dis, ah, il y a quelque chose de bien qui se passe là. Seigneur, conduis-moi. Je veux trouver. Oh, que le Seigneur nous aide. Et vous savez, vous n'aurez pas de regrets. Les chrétiens qui sont malheureux, ce sont ceux qui marchent avec un pied dans le monde et un pied dans l'église ou avec le Seigneur. Ça, c'est les plus malheureux. Mais si je mets les deux pieds dans le plat avec le Seigneur, alors là, c'est l'épanouissement. Et en cas de besoin, et on en aura besoin, il y a un avocat qui intercède pour nous en notre faveur, tout le temps, et qui sait parler au Père, parce qu'il sait quelles sont les pensées du Père. Prions. Père Céleste, nous avons ouvert ta parole et nous avons trouvé une belle pensée. On a du mal à la saisir, tellement elle nous étonne, tellement elle est contraire à ce qui se passe dans notre monde. Mais elle nous dit quelque chose sur toi. Elle nous dit qui tu es. Elle nous dit combien tu nous as aimés. Elle nous dit combien tu es prêt à mettre en œuvre pour réaliser ton plan. Et Seigneur, nous sommes là. La croix, elle est dans le passé. Nous ne sommes pas comme les disciples qui ne savaient pas de quoi tu parlais. Là, on a pu comprendre de quoi tu parles. Et Seigneur, merci de t'être revêtu d'un corps et d'en avoir fait un temple. Et maintenant, ton esprit veut bien faire de notre corps un temple. Ô Seigneur, que nous puissions l'honorer. Et s'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui font que ce temple n'est pas une maison de prière et d'adoration, un lieu de service pour toi, Seigneur, que avant que tu prennes le fouet, que nous puissions mettre de l'ordre. Parce que parfois, tu prends le fouet et on se retrouve à plat dans un lit, on se trouve dans une situation impossible et là, on est obligé de penser à ce temple. Seigneur, que nous ne soyons pas trop têtus. Nous sommes toujours un peu, mais que nous ne soyons pas trop têtus et qu'on vienne à toi. Et puis qu'on dit, Seigneur, je crois qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne te plairaient pas. Tu ne serais pas à l'aise là. Ce ne sont pas des choses que je ferais en ta présence. Aide-moi. Et Seigneur, merci pour ce beau plan que tu as préparé pour nous. Merci pour tout ce que tu as enduré pour le rendre possible. Et merci que tu es là pour le réaliser. Et en attendant, eh bien, tu intercèdes pour nous devant le Père. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes en notre faveur. Père, un grand merci et à toi toute la gloire. Amen.